Frères et sœurs bien-aimés, nous contemplons le Seigneur dans l'Évangile qui nous enseigne, nous, ses disciples. Disciples, discipulus en latin, signifie les élèves. Nous sommes chacun à l'école du divin maître. Nous entendons sortir de sa bouche les paroles de la vie éternelle. Lorsque, sur la demande des apôtres, le Seigneur apprend à prier. Il nous livre et dépose sur nos lèvres la prière ô combien familière du Notre Père. Cette prière adressée à Notre Père qui est aux cieux comprend 7 demandes. Et une fois que le Seigneur a déposé cette prière, qu'il nous l'a livrée en héritage, eh bien, il va insister dans ses enseignements sur un point dont il sait que pour nous, pécheurs, est bien difficile, le pardon des offenses. Dans cette prière du Pater, le Seigneur nous invite à une réciprocité. Il s'agit de pardonner les offenses, les péchés, qui nous sont faits à notre endroit pour que Dieu nous pardonne. La vie chrétienne, c'est l'imitation de notre Seigneur Jésus le Christ. Et il nous faut donc, comme lui, à temps et à contre-temps, apprendre et savoir pardonner. Vous conviendrez avec moi que c'est bien plus facile à dire ou à entendre du Seigneur Jésus qu'à vivre, parce que l'offense, les blessures sont parfois profondes en nous. Alors, nous avons à ouvrir notre âme pour que le Seigneur accomplisse en nous un chemin de miséricorde, que nous soyons capables d'accorder notre pardon. Le Seigneur, lorsqu'il est livré au supplice de sa passion, pourra dire sur le bois de la croix, « mon Dieu, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » De même, le premier martyr, saint Étienne, alors que pierre après pierre, il est lapidé au nom de sa fidélité au Christ, reprendra les mêmes paroles, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ou encore, un autre exemple, le roi Louis XVI sur l'échafaud, de répéter les mêmes paroles, « mon Dieu, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Plus récemment, dans une histoire diocésaine, lorsque l'abbé Jean-Luc Cabe, qui surprend devant la maison diocésaine des jeunes en train de voler la voiture d'une catéchiste, et qui se reçoit ce coup de couteau alors qu'il va mourir, pourra lui aussi, comme sa famille le dira quelques semaines, quelques mois après son meurtre, et bien qu'il pardonne à leur bourreau, nous nous rappelons encore le saint pape Jean-Paul II aller rencontrer celui qui avait attenté à sa vie un 13 mai, jour de la fête de Notre-Dame de Fatima. Le cortège admirable des saints qui s'efforce d'imiter notre Seigneur Jésus le Christ reprend alors les mêmes paroles. Alors nous entendons le Seigneur nous inviter au pardon pour nous-mêmes recevoir le pardon de Dieu et nous lui demandons la force intérieure de pouvoir terrasser en nous l'orgueil et que triomphe en nous la vertu d'humilité, celle par laquelle nous comprenons à la fois que Dieu est plus grand que notre cœur, alors que nous comprenons que Dieu est bien plus grand, plus fort que nos limites. Le Seigneur nous invite à l'amour et à la perfection de l'amour. Ainsi affirmera-t-il qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, et nous contemplons alors dans la passion émerveillée de quel amour nous sommes aimés pour que Dieu descende sur la terre et devienne homme. Vous l'avez abaissé, même en dessous des anges, s'exclame l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et le Seigneur, en devenant un homme, a voulu être identifié au péché. Saint Paul le dit dans sa rhétorique, toujours un peu provocatrice, dans l'exagération orientale des termes. Le Christ, Dieu, l'a fait péché pour nous. Non pas que le Christ ait commis un péché, mais il est identifié au péché. Ainsi est-il reconnu par Saint Jean le Baptiste sur les bords du Jourdain. Voici l'agneau qui vient de Dieu et qui enlève les péchés du monde. Ainsi en est-il du sacrifice rédempteur du Christ, identifié au péché. Il se donne à nous sur le bois de la croix par amour pour nous pécheurs. Non pas que le Seigneur aime le péché, mais le Seigneur distingue le pécheur de son péché et n'a qu'un désir, honorer la justice et offrir sa miséricorde. Pour nous, bien sûr, qui sommes limités dans nos pensées, nous pourrions imaginer que la justice et la miséricorde sont forcément contradictoires. Eh bien, en Dieu, ces oppositions apparentes réussissent à la fois à toujours honorer la justice tout en proposant sa miséricorde. La pécheresse pardonnée que le Seigneur relève le jour où une horde d'hommes barbares lui court après pour la lapider, le dira, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, mais surtout, va, lui dit-il en la relevant, et maintenant ne pêche plus. Le Seigneur n'a qu'un désir, ouvrir pour nous un chemin de miséricorde. C'est la raison pour laquelle il est descendu du ciel et se présente à nous comme le Sauveur. Alors ouvrons nos âmes au Christ et laissons-le accomplir en nous ce chemin de purification. Et comme il l'affirme, il nous faut prier et le Seigneur de préciser à notre endroit qu'il nous faut particulièrement prier pour nos ennemis, pour ceux qui nous veulent du mal, pour ceux qui nous ont fait du mal. Alors nous supplions le Seigneur que nous ne replions pas sur nous-mêmes, mais qu'au contraire, par la grâce, que nous puissions sortir de cet état et comme lui, savoir pardonner, comme lui, savoir nous approcher au plus près de cette vérité de l'amour, l'amour de Dieu qui se manifeste à l'endroit du prochain. Nous demandons à la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de miséricorde, comme nous le chantons dans le Salve Regina, de nous aider en nous prenant sous son manteau, à parcourir ce chemin de justice et de miséricorde. Enfin, dans l'Évangile, après cet appel à la miséricorde, nous retrouvons une constante, celle qui contrecarre l'individualisme. Le Seigneur nous invite à aller rencontrer celui qui nous a offensés pour lui faire comprendre et surtout pour lui proposer notre pardon. Et puis, le Seigneur de dire, si cette rencontre ne suffit pas, prenez un ou deux témoins, si cela ne suffit pas, allez voir l'assemblée de l'Église, car nous formons un seul peuple. Nous sommes chacun par le baptême membre du corps mystique du Christ. Alors, en lui, le Seigneur crucifié et ressuscité s'accomplit ce mouvement même de l'amour qui s'appelle pour nous, dira Notre-Dame de Lourdes, la conversion du cœur. Enfin, nous voyons aussi combien le Seigneur nous dit que cette dimension collective de l'Église, qui est pécheur par ses membres, mais qui est sainte par Dieu, nous avons aussi à nous réunir tous ensemble, membres du corps du Christ, pour porter les intentions du monde. Le Seigneur affirme non seulement quand deux ou trois sont réunis en mon nom, moi je suis là au milieu d'eux. Le Seigneur est présent au milieu de nous ce matin. Présent parce que nous sommes rassemblés en son nom, présent parce qu'il se donne à nous sans retard et sans retour dans la sainte communion, comme il est là présent au tabernacle. Oui, le Seigneur est là pour entendre nos prières et en ce premier dimanche du mois, nous le supplions à la suite du bienheureux Pascal Vergès, prêtre et martyr, qui a longtemps vécu en cette église, qui a célébré ici sa première messe, que comme lui, dans ses derniers instants, lui qui rendait son dernier souffle dans ce camp de Sachsen, où il était prisonnier du nazisme, a réussi à se lever de sa paillasse et à aller porter secours à ce jeune Allemand qui hurlait sa douleur. Car l'amour du prochain n'a ni race ni religion. L'amour du prochain, c'est cet amour de Dieu qui nous saisit, et c'est après avoir opéré cette œuvre de miséricorde que, tombant à genoux dans un acte d'adoration, il rendit son dernier souffle, une vie de résistance intérieure contre le nazisme, s'efforçant d'annoncer la bonne nouvelle du Seigneur. Et que faisait-il dans ses camps et de prisonniers, puis dans ses camps de travaux obligatoires en Allemagne? Il s'efforçait d'être l'ambassadeur de la miséricorde de Dieu, s'efforçant dans sa petite cabane de chimiste de donner abondamment le sacrement de la réconciliation auprès de cette jeunesse qui n'avait qu'un désir, appartenir au Christ. Voilà le sacrifice de l'abbé Vergès qui force notre respect, notre admiration, et maintenant que nous savons qu'il est aux côtés du bon Dieu dans la gloire du ciel, nous lui demandons de nous aider, nous ici-bas sur la terre, à être à notre tour des ambassadeurs de sa miséricorde, à entendre l'appel du Christ, à recevoir de lui le pardon de nos fautes, pour qu'il nous relève, comme il a relevé la pécheresse pardonnée. En ce premier dimanche du mois, après la Sainte Communion, nous exposerons le Saint-Sacrement et nous supplierons le Seigneur, comme nous le faisons depuis le mois de janvier, pour qu'il accorde, par l'intercession du bienheureux Pascal, de nombreuses et saintes vocations pour notre diocèse. Et nous porterons dans ce temps d'adoration Corentin Laguens, qui sera ordonné diacre cet après-midi en la cathédrale de Tarbes, diacre en vue du sacerdoce. Nous rendons grâce parce qu'il a entendu l'appel du Seigneur et qu'il y répond avec audace. Et nous demandons à Notre-Dame, comme au Seigneur, de le soutenir dans son ministère, qui le configure au Christ serviteur, ainsi soit-il.